Samedi, on a vu Kareem Achour être capable d'encaisser. David Lemieux a maltraité Kareem Achour. On en parle avec Sébastien Gauthier, qui était à l'analyse de ce duel qui vous était présenté sur le réseau Cogeco. Il est avec nous. Salut Sébastien.
Salut Jérémy.
Écoute, première des choses, on va parler de David Lemieux, mais Kareem Achour, il encaisse, mais pour de vrai, là. Écoute, il a passé la soirée à se faire tapocher, là.
Oui, mais écoute, c'était pas surprenant. On savait que défensivement, il allait être plus hermétique que ce qu'on a vu dans ses combats précédents, parce qu'avec David, tout le monde se protège plus. Écoute, le soir même, je me disais, bon, David a monté beaucoup d'énergie, a monté une bonne variété de coups de poing, a pas manqué de vue, a réussi à être assez puissant pour envoyer son adversaire au plancher au dernier round. C'était quand même, moi, j'évaluais une performance comme j'étais positif dans la performance. C'est ce que je voulais que les gens ressentent. Puis après le week-end, ben, je suis un petit peu moins positif. J'ai repensé au combat, réanalysé un peu le tout, puis je me suis dit, bon, c'est pas le genre de performance que David devait faire.
OK, explique-moi, qu'est-ce que tu aurais aimé de voir de David?
Ben, écoute, Kareem s'est ajusté au niveau de la défensive. Kareem a bien fermé sa défensive, a pas lancé énormément de coups de poing, mais a touché souvent David. Je trouve que David a des mains tellement rapides, des mains pesantes, des mains extrêmement lourdes. Il est très dangereux, mais on dirait qu'il lançait des coups de poing pour lancer des coups de poing. Il lance un bon volume, mais prépare pas nécessairement d'attaque. Il se dit que en frappant même sur les gants ou sur les bras, ben, que ça va finir par passer au travers, puis qu'il va finir par passer le corps à son adversaire. Je pense que manquer un petit peu à des niveaux peut-être stratégiques, des petits ajustements, de préparer un peu mieux ses attaques. Puis c'est ça que j'ai constaté. Je me suis dit, bon, OK, oui, c'est une performance dans le sens qu'il a jabé plus, il était rapide, il a utilisé un peu son jeu de pied, la puissance peut transporter, mais bon, il a pas réussi à passer Kawa à Kareem parce que, justement, il a manqué un petit peu, peut-être, au niveau des détails techniques, des ajustements, puis de préparer l'attaque statistique, mettons.
Mais écoute, l'histoire qui est ressortie de tout ça, c'est Camille et Stéphane qui, le lendemain matin de la pesée, dit « Oubliez ça, David, c'est fini chez les 160, il ira chez les 168 livres. » Mais là, après le combat, c'est « Attendez, c'est pas sûr et certain qu'on aille du côté des 168, on va rester chez les 160. » Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu rencontre chez Eye of the Tiger Management. Camille et Stéphane a dit à notre ami David Lemieux, et là, évidemment, j'imagine que c'est ça qui a été dit, mais David, va falloir que tu sois un vrai pro et tu commences à faire attention à toi entre les combats. Puis il faut plus que ça arrive, ces choses-là. Là, David Lemieux dit, ben regarde, c'est ma responsabilité, c'est moi qui n'ai pas été sérieux à 100%, mais je veux rester chez les 160. Comment tu trouves ça, cette situation-là?
Ben écoute, l'argent parle. C'est qu'est-ce qui est le plus payant pour David? T'sais, encore là, je vais y aller tout le temps du côté, qu'est-ce qui te passionne? Est-ce que la boxe, peut-être un champion du monde dans deux catégories de poids différentes, pour écrire ton nom dans l'histoire de la boxe, ça te passionne ou l'argent t'intéresse plus? C'est un petit peu ça le jeu présentant. Pour moi, dans ma tête, ce que je vois, c'est que David dit non, moi, je vais rester à 160 parce que là, j'ai une possibilité de me battre avec Canelo Alvarez puis faire plusieurs millions de dollars. Tandis que si je monte à 168 livres, ben là, j'ai des James de Gale qui est extrêmement rapide. J'ai des boxeurs comme ça qui sont un petit peu plus gros, qui ont des bons jeux de pied qui peuvent se déplacer. Puis ça se peut que je rate mon coup, puis en faisant beaucoup moins d'argent. Donc, c'est un petit peu ça. Est-ce que je veux gagner une deuxième ceinture dans un poids différent, puis peut-être justement écrire l'histoire de la boxe au Québec, ou j'aime mieux courir après de l'argent parce que, justement, moi, ce que les gens vont penser de moi, c'est pas important tant que je fais de l'argent. Fait que je suis un petit peu partagé. Je sais pas c'est quoi sa vision. Pour moi, c'est sûr que le challenge est plus intéressant de se battre avec Canelo. Si c'est au niveau de la notoriété de dire, écoute, j'ai battu Canelo, puis il a fait une nouvelle Golovkin. S'il me l'approche comme ça, je vais le croire, mais je pense que c'est une question monétaire. Je pense que c'est plus ça qui est attirant. Les combats sont plus payants à 160 livres.
Mais Sébastien, si tu es passionné par ton sport qui est la boxe, c'est-à-dire que tu es capable d'être un professionnel sur le ring, mais à l'extérieur du ring aussi, tu devrais pas te retrouver dans des situations où tu arrives peu de temps avant le combat avec beaucoup de poids à perdre avant la pesée. Écoute, il faut que tu sois professionnel tout le temps, là.
Oui, mais ça, je pense qu'en tout cas, je vais pas mettre le blâme à 100% sur David, mais il est tellement tourné pro rapidement. Il est tourné pro à l'âge de 17 ans. Il venait d'avoir 18 ans ou dans cette ligne-là. Il n'a pas eu le temps de d'apprendre des rangs amateurs, de souffrir à faire son poids. Il n'a jamais vécu ça à l'amateur. Il s'est battu au poids qu'il était. Il n'a jamais eu de sacrifice à faire. Il est arrivé chez les professionnels, puis on l'a installé dans un poste qui était, écoute, il était beaucoup plus petit, puis il était confortable à ce poids-là, donc ça, c'était pas difficile pour lui faire le poids. Mais on, il a jamais vraiment appris à le faire comme du monde. Moi, je pense que c'est un petit peu ça. Je pense que son entourage au niveau de la nutrition, encore là, ils vont se garder un jeu peut-être trop élevé. Peut-être, au lieu de garder un 15 ou 12 livres de poids à perdre pour les dernières semaines, ben, ils devraient descendre une livre par jour pendant les 12 derniers jours. Je pense que ils devraient être capables de gérer ça parce qu'on l'a tous fait. Puis on est, tu sais, oui, notre visage rallongé la journée de la pesée parce qu'on perdait peut-être un 3-4 livres. On perdait pas 10 livres ou 8 livres ou 6 livres. C'est facile parce qu'on était bien, je dirais qu'on était bien géré, peut-être. C'est à ce niveau-là. Je sais pas, tu sais, avec qui il travaille au niveau de la nutrition. Je sais pas. Mais tu sais, je sais que David aime manger, puis c'est correct. On aime tout manger. On est des athlètes. La plupart des athlètes, après notre carrière, on devient quasiment obèse parce que justement, on aime tellement manger. C'est tellement une récompense pour nous. Mais dans le cas de David, peut-être c'est ça. Tu sais, ce qu'il mange, c'est que la nutritionniste devrait être un petit peu plus encadrante puis justement s'assurer de soit lui préparer les repas pour les derniers 6 dernières semaines. Tu sais, okay, David, il faut manger à telle heure, telle heure, telle heure, tel moment, telle chose, telle portion. Puis ça se peut qu'il ait besoin de ça. Ça se peut qu'il y ait du monde comme ça qui ont besoin d'un encadrement un peu plus strict.
OK, mais s'il ne l'a pas fait avant, penses-tu qu'il va le faire après?
Ben, écoute, si je t'appelle demain puis je te dis Jérémy, j'ai pas de combat, là, mais j'ai un combat pour toi avec Canelo Alvarez pour 3 millions de dollars. Est-ce que tu penses que tu peux faire 160 livres? Est-ce que tu penses que tu peux te prendre d'avance?
Ben moi, je suis obligé de te dire. Non, mais je suis obligé de te dire non tout de suite, ça c'est pas possible pour moi. Mais dans le cas de David Lemieux. Non, c'est impossible. Mais dans le cas de David Lemieux, ben, ça peut être possible.
Ouais, mais écoute, je dis, Jérémy, je vais pas dire comme ça, là. Le pire qui va arriver, là, c'est que tu vas te faire endormir au premier round avec un coup au corps. Fait que ça fait pas trop mal, tu vas être récupéré, tu vas être 2 millions plus riche. Tu sais, David, dans ce cas-là, avec Canelo, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Moi, je pense que David peut faire mal à tout le monde, peut battre Canelo Alvarez parce que justement, il y a cette puissance-là. Mais je sais, puis j'ai aucun doute dans ma tête que David, s'il sait offrir le combat, il va faire le poids facilement. Ouais, pas facilement, mais il va faire le poids, puis il n'y aura jamais de chialage, aucune plainte, parce que le sérieux du combat va faire que tout l'entourage, il n'y aura rien, il n'y aura aucun détail qui va être fait au hasard.
Ben moi, c'était pas Triple G qui était mon problème, mais plutôt les 160 livres. Ça va être compliqué, je te garantis.
Okay, oui. Bon argument.
Ben, voilà. Sébastien, écoute, outre le combat de David Lemieux, qui a retenu ton attention dans cette soirée de boxe qui a été spectaculaire? J'ai écouté le combat à la télé à la carte, puis vraiment, on a eu des combats de qualité, là.
Ah, écoute, vraiment, ben moi, j'ai impressionné par beaucoup de monde. C'est sûr que le favori de Jacques Thériault, Bâtir a montré quelque chose de différent. S'est fait faire mal, s'est fait ébranler, s'est retrouvé au plancher à une reprise, mais a été ébranlé au moins 3 fois seulement pendant le combat. Puis il a réussi à revenir à la boxe au lieu de tout le temps à chercher la guerre. Puis moi, c'est quelque chose que je reprochais à Bâtir en début de carrière, qui recevait un petit peu trop de points parce que justement, soit il les craignait pas ou ben justement, il était trop hargneux de vouloir placer les siens. C'est ce qui est arrivé. Il affrontait un boxeur qui était un petit peu plus rapide que lui, puis qui avait une bonne stratégie. Le boxeur s'est déplacé. C'est un gaucher. Gauche contre gaucher, on n'est pas habitué déjà. Puis le boxeur se déplaçait sur son pied gauche. Donc, vers l'arrière, Bâtir avançait, puis là, lancer la main gauche par-dessus, puis touchait, mais tellement solidement. Donc, Bâtir qui fonçait, rentrait dans les coups de poing. Puis là, tranquillement, après s'être fait ébranler, il a recommencé à boxer, garder une distance. Donc, il avançait, mais il faisait un petit pas de recul. Laissez pas cette distance-là. Son adversaire s'est mis à foncer, s'est mis à essayer de toucher plus solidement Bâtir, avancer dans ses coups de poing. Puis là, il a resté pris dans le piège, puis Bâtir a réussi à toucher. Donc, Bâtir, performance, les ajustements, le courage, parce que quand tu te fais mal comme tu t'es fait mal, à 3 reprises, se retrouve au plancher, et il est possiblement en arrière sur la carte de pointage. Il a resté calme, il a resté vraiment, on dit en anglais, on dit comme pause. Donc, tu sais, il est resté en contrôle de ses émotions. Puis, il a réussi à tourner le combat, aller chercher le KO. Pour moi, ça, c'est une performance digne d'un classique de boxe. C'est vraiment de toute beauté, mais une sous-carte est époustouflante, adorable. J'ai adoré la sous-carte au complet.
Oui, tu fais référence à Batyr Yukembayev qui affrontait un Argentin. Et juste te dire, là, l'Argentin, honnêtement, lui aussi a donné tout un spectacle. Là. Le gars, il est bon, solide, lui-là. Là.
Ah, vraiment, vraiment. Puis c'est drôle, hein, parce que les gens regardaient sa fiche. Puis moi, j'ai noté avant le combat, j'ai dit, à ses quatre derniers combats, il y a 4 victoires, mais il y a 3 victoires par KO. Il a arrêté cet adversaire. Donc, il n'y avait pas un gros ratio de KO. Puis pourtant, on a vu, il y avait de la puissance, il était explosif. Puis surtout, ben, en ayant un plan de match, ça le rendait encore plus dangereux. Donc, c'était excellent. Moi, j'aime beaucoup aussi Éric Bazignan. C'est un des boxeurs, justement, que Ivan Tagger vient de signer. C'est un boxeur que j'ai eu la chance de suivre avec Rickson en début de carrière. Puis, écoute, il est encore là, prend une belle maturité. C'est un jeune homme. Ça sert un peu de grand-père à tout le monde dans le gymnase à Montréal parce qu'il parle tellement de langues différentes, parle bien français, anglais, mais plusieurs langues de l'Europe de l'Est. Donc, il réussit à aider tous les athlètes en même temps. C'est comme le plus jeune, mais le grand-frère de tout le monde en même temps. C'est, dans le ring, il est beau à voir. Ce combat-ci, il a réussi à rester droitier tout le long, mais des fois, il va changer de côté, il va devenir gaucher, puis il est aussi bon gaucher que droitier. Donc, c'est un boxeur qui est intéressant à voir, un beau bonhomme, donc charismatique, puis tu sais, un sourire qui va plaire aux spectateurs. C'est vraiment ce type d'athlète-là. Autant qu'il est bon physiquement, il est beau physiquement, il paraît bien, il a une belle apparence, mais son ring, sa façon de se déplacer, sa façon de boxer, c'est parfait pour attirer les foules.
C'est une soirée de boxe très, très agréable à regarder, en espérant maintenant que David Lemieux soit en mesure de mieux gérer, disons, sa portion entre les combats qui amènera, j'en suis convaincu, moins de problèmes. Sébastien Gauthier, merci, félicitations pour le travail ce week-end. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ben merci, on a eu du fun. C'est un été de boxe, donc les gens, préparez-vous à vous déplacer un peu. Il va y avoir beaucoup de galas à Montréal, beaucoup de galas à Québec, à Shawinigan. Il y a beaucoup d'actions, donc déplacez-vous, ça vaut la peine.
Sébastien, merci d'avoir été là.
Merci.
Merci. Sébastien Gauthier nous parlait de la victoire de David Lemieux. Victoire par décision unanime face à Karim Achour. Ça se passait samedi du côté du Centre Vidéotron. Hier, du côté de la Saskatchewan, le Titan d'Acadie Batters a remporté la Coupe Memorial. Victoire de 3-0 face aux Pats de Regina. L'entraîneur-chef du Titan, Mario Pouliot, est avec nous au retour.